Le journal vous est présenté par Rosalie Lafarge.
Bonjour à tous. Une heure de discours, une heure et demie de questions-réponses. Emmanuel Macron livre ses mesures pour résoudre la crise des gilets jaunes devant les journalistes. Le président se défend d'avoir fait fausse route depuis 2 ans et promet une nouvelle méthode. Zoom sur ses annonces en matière de démocratie dès le début de ce journal. Mythomane et surtout meurtrier, Jean-Claude Roman va pouvoir sortir de prison. 26 ans après avoir tué toute sa famille, le faux médecin de l'OMS obtient la liberté conditionnelle. Dans cette édition, nous ferons aussi le point sur la situation en Syrie où Bachar al-Assad, cramponné au pouvoir, fait figure d'exception dans le monde arabe. Et puis nous irons à Alger, où le 10e vendredi de manifestation se prépare. Il l'assure, il a senti dans sa chair la colère des Français. Emmanuel Macron livre ses réponses après 5 mois de crise des gilets jaunes et un grand débat. Le président appelle à travailler plus pour financer la baisse d'impôts, notamment sur le revenu. Réindexation des retraites, maintien de l'âge de départ, moratoire sur les fermetures d'écoles, voilà pour les grandes lignes. Et côté démocratie, qu'en est-il? Eh bien Emmanuel Macron refuse presque systématiquement, Karine Bécard, toute ouverture démocratique.
Un peu plus de proportionnel, de l'ordre de 20%, et 25 à 30% de parlementaires en moins. Voilà ce qu'a confirmé Emmanuel Macron, et c'est à peu près tout. Parce que, sur la prise en compte du vote blanc, par exemple...
J'ai un moment été tenté par cette option, j'y ai beaucoup réfléchi, et je ne la retiendrai pas.
Même chose avec le vote obligatoire, pour pousser les électeurs à revenir aux urnes. Là encore...
Je ne retiendrai pas cette option. Je ne crois pas qu'on répond à la crise démocratique par la contrainte.
Alors qu'est-ce qui reste pour réoxygéner la démocratie justement? Le RIC, évidemment, le référendum d'initiative citoyenne, mais porte close également.
Tel qu'il est proposé, il me semble remettre en cause la démocratie représentative, mais je crois malgré tout que nous devons donner plus de place à la voie référendaire dans notre démocratie.
Ah! Par l'intermédiaire du RIP, le référendum d'initiative partagée, Emmanuel Macron est prêt à abaisser à 1 million au lieu de 4,5 le nombre de signataires pour déclencher le dispositif. En revanche, pour sortir du grand débat, l'idée d'un référendum avec plusieurs questions, une fois de plus...
La décision d'en appeler au référendum, elle est en effet au titre de notre Constitution à la main du président de la République. Aujourd'hui, je n'ai pas retenu cette option.
Donc on ne s'y trompe pas, le président veut bien d'une démocratie un peu plus délibérative, mais certainement pas participative.
Karine Bécard, seul renoncement, Emmanuel Macron se dit prêt à lâcher son objectif de 120 000 suppressions de postes chez les fonctionnaires. Finalement, le principal changement, c'est plutôt sur la forme que sur le fond, note le politologue Stéphane Rosès, président de CAP, Conseil Analyse et Perspective.
Sur les deux revendications essentielles, c'est-à-dire la question de la justice fiscale et la question au travers du RIC, au fond, de savoir si le souverain est bien dépendant de la souveraineté du peuple, il n'aura pas bougé. En fait, le mouvement qu'il fait, d'ailleurs dans une contradiction entre l'ambition affichée, nouvel acte de la République et des mesures au fond assez déceptives, la grande modification, c'est une modification de ton, de style. Il dit « j'ai changé, j'ai appris des choses sur la France, c'est même ma fonction ». Il rend même hommage à ses débuts aux revendications des gilets jaunes. Il souhaite humaniser la transformation du pays. Il souhaite mettre un peu plus de justice. Mais au fond, les mesures sont quand même très homéopathiques.
Le politologue Stéphane Rosès avec Stanislas Vazak. Ces mesures jugées homéopathiques à l'instant, l'opposition les trouve bien insuffisantes, éloignées des attentes des Français et franchement pas rassurantes pour l'avenir. Pour Gabrielle Siri, elle est porte-parole du Parti Socialiste.
Ce qui me rend le plus triste, c'est l'allongement de la durée du travail. Et comme par hasard, une semaine après que ça a été évoqué dans la presse par Monsieur Roux de Bézieux qui dirige le MEDEF. Donc la question de la pénibilité au travail n'a même pas été évoquée. Ça veut dire qu'un certain nombre de personnes sont censées travailler jusqu'à 64 ans pour avoir une retraite décente, alors qu'on sait qu'entre un ouvrier et un cadre, c'est 10 ans d'espérance de vie de différence. Et puis surtout, c'est présenté comme une évidence économique et ça, c'est insupportable. De nombreuses études ont montré en fait que la baisse du temps de travail avait créé des emplois. Surtout ce qu'on a constaté déjà avec l'allongement récent de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, c'est une hausse des arrêts maladie, une hausse de leurs coûts. Les classes moyennes vont devoir autofinancer leur réduction d'impôts en partant plus tard à la retraite et sur les rotules.
La porte-parole du PS, Gabriel Siri, avec Steven Gouayer. On va revenir encore largement sur les annonces du président de la République tout au long de la matinée sur France Culture. 26 ans après ses crimes, la justice va libérer Jean-Claude Roman, le faux médecin condamné à perpétuité pour avoir tué son épouse, ses deux enfants et ses parents, vient d'obtenir une libération conditionnelle. Il devrait sortir avant l'été, son avocat Jean-Louis Abad.
Il est bouleversé, il repense aux siens. Je vous rappelle tout de même que c'est un drame familial, mais qui touche des gens qu'il a aimés, des gens qui l'ont aimé. Et donc, il n'y a pas de triomphalisme, ni chez lui, ni chez moi. Il ne peut y avoir de triomphalisme chez personne dans une affaire aussi douloureuse que celle-ci.
Le Sri Lanka achève son macabre bilan. Les autopsies sont terminées 5 jours après les attentats revendiqués par Daesh. Ils ont fait 253 morts et des centaines de blessés. Et bilan toujours très lourd, mais revu à la baisse. Le cyclone Kenneth frappe le Mozambique. Arbres arrachés, coupures d'électricité, les vents violents ont touché hier soir le nord du pays. Les Nations Unies redoutent des inondations et des glissements de terrain à la frontière avec la Tanzanie. L'avenir de la Syrie en discussion au Kazakhstan. La Russie, l'Iran et la Turquie sont réunis depuis hier pour une conférence, quelques semaines après la perte du dernier bastion de Daesh à Baghouz, en territoire syrien. À Damas, Bachar al-Assad a gagné la guerre et règne sur un pays dévasté, Christian Chéneau.
Dans son palais qui surplombe Damas, Bachar al-Assad semble intouchable, ou plutôt inamovible. Aujourd'hui, il fait figure d'exception dans le monde arabe, où de nombreux chefs d'État ont été éliminés au moment des révolutions de 2011 et plus récemment en Algérie et au Soudan. Grâce à ses alliés russes et iraniens, Bachar al-Assad a écrasé militairement ses opposants et a survécu miraculeusement. Autant dire qu'il n'a pas l'intention de lâcher du lest, estime Sami Kleb, éditorialiste libanais.
Pour lui, il n'y a plus d'opposition. S'il est obligé de faire quelques concessions, c'est pour aider les Russes dans leur élan international. Peut-être il ferait quelques gestes suite à des pressions de la part des Russes concernant la constitution, élargir le gouvernement, faire venir des opposants, acceptés par le régime, pas ceux qui ont combattu sur le terrain, bien évidemment. Comme il a gagné, il a récupéré toutes les grandes villes ainsi que les banlieues de Damas. Je ne vois pas du tout que Bachar al-Assad va faire des concessions dans l'avenir.
Aujourd'hui, Bachar al-Assad règne sur un pays exsangue dont la démographie a été bouleversée. Plus de 7 millions de Syriens ont trouvé refuge à l'étranger, sans parler des déplacés internes. Pour Fabrice Balanche, géographe spécialiste de la Syrie, il ne faut pas s'attendre à un assouplissement du régime syrien, bien au contraire.
Ce qui va se produire, c'est que là, on va avoir évidemment en Syrie une chape de plomb pendant 5 ans, une répression pour tuer vraiment toute velléité d'opposition. Naïvement, on pense qu'en n'aidant pas la reconstruction de la Syrie, ça va créer des problèmes économiques qui vont déstabiliser le régime et l'obliger à partir. Non, pas du tout. Après cette répression, après cette guerre, les gens qui seront opposés à Assad, ben, ils partiront.
Et selon lui, Bachar al-Assad pourrait même se faire réélire lors de la prochaine élection présidentielle prévue en 2021.
Après un conflit qui a déjà fait plus de 370 000 morts depuis 8 ans, Christian Chéneau. Un 10e vendredi de manifestation en Algérie. Il intervient après une série de limogeages de symboles du régime Bouteflika et de spectaculaires incarcérations dans des affaires de corruption présumées. Cela suffira-t-il à calmer la contestation? Rien n'est moins sûr, Leïla Berato.
Et en hashtag Hurra Demokratia veut dire libre et démocrate.
Amazir Aïssa, 30 ans, a préparé une pancarte. Au feutre, il a résumé ses demandes: assemblée constituante, pouvoir au peuple, démocratie. Les incarcérations des hommes d'affaires cette semaine, ce n'est pas sa priorité.
Ça me fait ni chaud ni froid. Parce que je fais confiance à une seule justice, qui est la justice qui va émerger du peuple.
Des décisions peu indépendantes, c'est aussi le sentiment de Karim Boutata, un militant de 32 ans.
Le premier à juger, c'est pas l'homme d'affaires ou bien un simple directeur, mais c'est les responsables.
Pour Kamel Nemish, un militant de la région de Bouira, c'est le rôle d'Ahmed Gaït Salah qui n'est pas clair.
Les citoyens algériens sont toujours demandeurs du changement, même s'il y a des tentatives de brouiller les cartes, même s'il y a des tentatives avec les sorties du chef d'état-major, d'ailleurs non. Je ne sais pas à ce qu'il en parle autant que chef d'état-major ou autant que chef de l'État.
Ce jeudi, un rassemblement a eu lieu à Tizi Ouzou pour dénoncer l'incarcération de Issa Adrebrab, le patron de Cevital.
Leïla Berato à Alger pour France Culture. Le président chinois promet d'abolir les subventions qui faussent la concurrence comme une réponse de Xi Jinping à l'exigence américaine. Les États-Unis accusent Pékin de soutenir abusivement ses entreprises publiques. Les États-Unis, où Joe Biden se lance officiellement dans la course à la présidence. À 76 ans, l'ancien vice-président démocrate se pose en gardien d'une Amérique des valeurs comme un rempart à Donald Trump. Encore beaucoup de pluie aujourd'hui en France et entre les averses, nous aurons droit à des nuages. Pour les températures, on est entre 12 et 16 degrés à la mi-journée, jusqu'à 19 près de la Méditerranée.